Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
1924, année non pas érotique, mais année péplum. C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui dans Antiquissimo avec Claude Aziza, que je salue.
Bonjour.
Alors, pourquoi choisir cette date 1924 pour la sacraliser, décréter année péplum, Claude Aziza?
Pour une raison très simple, c'est qu'on est en 2024 et c'est un centenaire. Ça, c'est une première raison.
Oui, ça, on peut le comprendre.
Et voilà. Pour une raison cinématographique, il se trouve que, hasard sans doute, l'année 1924 est une année extrêmement riche en ce qui concerne le cinéma, dans tous les genres. Et il ne faut pas oublier que nous sommes pratiquement dans les dernières années du muet avant l'arrivée du parlant. Voilà. Alors peut-être qu'avant de parler des péplums, je voudrais simplement dire qu'il y a trois grands films, tous les trois américains, en 1924. Le premier, c'est un film de Erich von Stroheim, qui est un film maudit qui s'appelle « Les rapaces ». Et qui devait durer des heures et qui a été coupé, tronçonné. Le deuxième est le premier grand western de John Ford, Le Cheval de Fer. C'est l'histoire de la construction du train. Et le troisième est un des premiers films de Raoul Walsh qui s'appelle Le Voleur de Bagdad et qui va donner l'essor à toute une série de films sur
les
mille et une nuits. Voilà. Ça, c'est...
Donc, les trois chefs-d'œuvre.
Oui, trois chefs-d'œuvre.
Alors maintenant, bien sûr, tout en rappelant aux auditeurs que Claude Aziza a de multiples casquettes, mais non seulement, mais aussi, pardon, celle de spécialiste du western, spécialiste du cinéma en général et du péplum en particulier, nous allons ici, dans cette émission 1924 Année Péplum, égrener, si possible... 7 films, peut-être n'aurons-nous pas le temps de parler des 7, on va dire 6 dans un premier temps. 6 films péplum dont on va juste déjà donner la liste. Nous parlerons en premier de L'Esclave Reine. Ça, nous serons dans quel univers, Claude Aziza?
Nous serons dans l'univers de l'Égypte et de la Bible.
Ensuite, nous irons, alors on a choisi un tracé chronologique, non pas dans la création des films, de l'année 1924, mais dans l'histoire avec un grand H. Donc ensuite, ce sera Hélène de Troie. Donc là, bien sûr, tout le monde a compris que c'était l'univers grec. Messaline. Après Hélène de Troie, nous irons voir Salammbô, histoire de Carthage, qui va bien sûr nous passionner avec un film français. On y reviendra tout à l'heure. Antoine et Cléopâtre, ce sera notre numéro 4. Messaline, notre numéro 5. Et je suis en train d'oublier mon numéro 6. Non, c'est Quo Vadis. Et peut-être aurons-nous le temps pour les Nibelungen dans une ultime minute. On ne sait pas. Alors, commençons avec le premier, L'Esclave Reine. Que faut-il en savoir, Claude Aziza?
Alors, c'est un film extrêmement intéressant. C'est un film intéressant pour au moins deux raisons, peut-être trois. Première raison, cinématographique, c'est un film autrichien de quelqu'un qui se nomme Milai Kertész.
Mais qu'on connaîtra sous un autre nom.
Et qu'on connaîtra sous le nom de Michael Curtis, qui sera un des grands réalisateurs hollywoodiens dans trois domaines, le western, le film de cap et d'épée, d'aventure, c'est le réalisateur de Fameux Captain Blood, et le péplum.
Donc, une durée de 144 minutes à peu près, parce que là, c'est plus difficile avec ces films-là de mesurer en termes de minutes. C'est plutôt la longueur des bobines est envisagée. On raconte très brièvement l'argument. Oui, et je vais d'abord vous demander, est-ce que le spectateur lambda d'aujourd'hui peut le voir, ce
absolument.
Film?
Absolument. Le problème, c'est qu'il peut le voir, mais il est invisible.
Ah.
Alors, j'avais dit, il est intéressant pour deux raisons. et je n'ai pas encore parlé de la seconde. La seconde, c'est que c'est l'adaptation d'un roman qui s'appelle « Moon of Israel », qui est écrit par un romancier que tout le monde a oublié maintenant et qui s'appelle Henry Rider Haggard. Et Henry Rider Haggard, il y a au moins un seul titre qui reste, c'est « Les mines du roi Salomon ».
Ah oui, quand même. Oui, oui.
Alors Henry Rider Haggard, qui est né en 1856 et qui est mort en 1925, un an après ce film, a écrit trois romans, deux romans et une nouvelle sur l'Antiquité, une Cléopâtre, Une nuit des pharaons, qui est une nouvelle assez fantastique, et en 1918, L'esclave reine. Alors, L'esclave reine, c'est quoi ? Ben, ça se passe en 1230 avant Jésus-Christ, et il y a une jeune esclave, non pas juive, le sens n'a pas de sens, c'est une jeune esclave hébreu, qui tombe amoureuse du prince Séti, qui est la fille du pharaon Meremta. Bon. Et tout ça, évidemment, il va y avoir une intrigue amoureuse, et à la fin, apparaîtra Moïse qui va emmener son peuple pour traverser la mer Rouge, etc.
Donc, l'univers biblique. Pourquoi l'univers avez-vous biblique. Dit qu'on pouvait le voir, mais que c'était invisible ?
Ben, il est invisible parce que il faudrait peut-être le retrouver sur... il n'est pas en DVD, voilà.
Voilà, c'est ça. Il d'accord, donc ce DVD. Sera quand même assez
alors,
difficile
d'accès.
Ce qui
est intéressant, c'est qu'il est sorti en Autriche le 24 octobre 1924, mais il a fallu attendre 1927 pour qu'il sorte aux États-Unis, pratiquement à la fin du cinéma muet. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire
alors,
sur ce film.
Hélène de Troie.
Qui est magnifique.
Hélène de Troie.
Alors, Hélène de Troie, c'est un autre problème. L'esclave reine, c'était un péplum autrichien.
Donc, c'est un film allemand, je crois. Hein.
Pardon ?
Non, c'est un film allemand.
C'est un film de Manfred Noah.
Oui.
Qui est sorti en deux parties en Allemagne. En janvier, le 21 janvier 24, la première partie, et le 4 février 24, la seconde partie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le voir, parce qu'il a été restauré en 2001, il est d'ailleurs passé sur Arte, et c'est assez intéressant. D'ailleurs, le titre n'est pas Hélène de Troie, le titre c'est Héléna, et il s'agit tout simplement de l'histoire de l'enlèvement d'Hélène par Paris. Alors c'est un très très beau film, c'est absolument extraordinaire, et on a notamment des... Paris face aux 3DS, Histoire de la pomme, est vraiment un des chefs-d'œuvre du cinéma muet. Donc ce film-là, où l'on voit Hélène, Paris, Priam, Écume, Hector, Achille, Patroc, Agamemnon, Andromaque, on les voit tous. Donc on peut la voir et il faudrait peut-être pouvoir le regarder parce que c'est, comment dire, c'est pas le premier film sur Hélène de Troie, mais c'est sans doute un des plus célèbres aujourd'hui encore.
Aujourd'hui encore.
Oui. Aujourd'hui encore.
Alors, on glisse vers l'univers punique carthaginois et on va voir Salammbô. Et bien sûr, on pense tout de suite à Flaubert.
Oui. Alors là, c'est encore un autre problème.
Celui-là est assez long, hein, de film. Hein.
Oui, le film est long. Il est repassé en version en 1996. Il est repassé à l'opéra d'ailleurs, bon, il a été restauré, il est très difficilement accessible, mais c'est intéressant. Et c'est intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est la personnalité du réalisateur qui s'appelle Pierre Marodon, qu'on a totalement oublié, qui est né en 1873, qui est mort en 1945 à Ain Témouchent en Algérie, c'est intéressant, et qui a écrit quelques films tirés de la littérature. Alors, je cite simplement en 1923, Buridan, le héros de la Tour de Nesle, inspiré par le drame de Dumas, et en 1926, Les dieux ont soif, inspiré par le roman d'Anatole France, dont on célébrera cette année le centenaire de la mort. Ça, c'est quelque chose d'assez... assez rare. Si vous voulez. Deuxième rareté, c'est que, contrairement à tous les films muets qu'on a mentionnés, qu'on va mentionner, il y a une musique qui a été écrite exprès pour ce film et jouée avec un orchestre, bien sûr, par Florent Schmitt, qui est un musicien célèbre à l'époque. Ça, c'est la deuxième chose.
Alors, une musique extraordinaire, nous en écouterons tout à l'heure un extrait dans quelques instants, et qui est organisée en plusieurs suites. Et je dis tout de suite que on écoutera un petit moment du Pacte des guerres dans la troisième suite.
Alors, pour revenir à ce Salambo, c'est un film franco-autrichien.
Oui.
Alors, vous voyez que l'Autriche est quand même, a produit beaucoup de péplum. Le rôle de Salambo est tenu par une actrice un peu oubliée maintenant qui s'appelle Jeanne de Balzac et qui se prétendait la descendante de Balzac. Bon. Et c'est un film qui a été fini en 1924 et sorti en 1925. Voilà pourquoi
parfois il y a les deux
dans
dates,
les histoires du cinéma on va le trouver en 1925, mais vous savez la règle. C'est lorsque le film est terminé,
on considère que c'est la date.
On donne la date du film. Le scénario suit assez fidèlement Flaubert, ce qui ne sera pas le cas pour tous les Salambo. Il y en aura un qui sera ridicule, mais autant du péplum italien. L'intrigue est relativement bien mené, avec tous les aléas, bien sûr, d'un film muet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la société de production, qui l'a d'ailleurs restaurée en Suisse, c'est la Gaumont, en France. Voilà ce qu'on peut dire. Et on peut dire aussi que, de ce côté-là, c'est quasiment, non seulement pour la production française, la fin du cinéma muet, mais en fait, c'est intéressant parce que dans le cinéma français, c'est la fin du péplum. Le dernier, c'est l'avant-dernier péplum. Et le dernier péplum, ce sera en 1948, on en a parlé pour le centenaire de Michine Prel, Les derniers jours de Pompéi de Martial Verpier.
Alors, petite pause musicale, Claude Aziza, et nous écoutons comme promis la musique de Florent Schmitt. Antiquissimo, Radio Alliance Plus, Claude Aziza, 1924, année péplum. Alors, après avoir égrené les trois premiers de notre liste annoncée en début d'émission, nous voici avec Rome qui ressurgit sur les devants de la scène, puisque nous allons, Claude Aziza, aller parler d'Antoine et Cléopâtre, de personnages très connus du cinéma.
Oui. Alors, pour dire la vérité, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce film de 24. Personnellement, je ne l'ai pas vu. Il est invisible. Il est tiré de la tragédie de Shakespeare, Antoine et Cléopâtre, une tragédie qui date de 1607. Le réalisateur est un réalisateur pratiquement inconnu, Brian Foy.
Donc, c'est un film américain.
Oui, c'est un film américain, muet, en noir et blanc, bien sûr. Il est sorti aux États-Unis le 3 novembre 1924, donc à la fin mai. Il n'est pas très long, hein. Vraisemblablement, il ne doit pas dépasser.
Oui, une bobine, voilà. Donc oui, une bobine.
Pas très long. Mm-hmm. Et les acteurs principaux ne sont pas très connus. Hein. Donc c'est plutôt, comment dire, c'est dans la longue file, la longue liste des réalisations sur autour de Cléopâtre, soit tiré de César et Cléopâtre, soit tiré d'Antoine et Cléopâtre, soit inventé totalement. Et ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier.
D'accord.
Mais donc, c'est le dernier du cinéma muet.
Donc celui-là, on l'a bien enterré.
Celui-là, oui, on l'a bien enterré.
Bon. Alors, allons voir du côté de Messaline, cette fois-ci.
Alors là, on a quand même...
Là, il y a à dire.
Dans les deux films qui restent, la Messaline et le Covadis, plus évidemment, éventuellement, les Nebelungen, on a quand même assez, des choses assez extraordinaires. Alors, Messaline... C'est un film de 1924, réalisé par le plus grand réalisateur du cinéma muet, Enrico Guazzoni. Ça, c'est une première chose. Le scénario est de Guazzoni,
du même
réalisateur. Et c'est intéressant parce qu'il va durer 2 heures, plus de 2 heures d'ailleurs, donc ce qui est rare à l'époque. Il sort en Italie en mars 24, en France en juillet 24 et aux États-Unis en août 24. Donc c'est quelque chose d'intéressant. La distribution, là aussi, ne dira rien à personne, sinon que Messaline est jouée par la grande, grande vedette du cinéma muet, Rina De Liguoro. Très grande vedette que les spectateurs adoraient. Donc c'est tiré...
Mais que nous verrons ou que nous ne verrons pas, est-ce possible de voir ce film
C'est possible, mais moi je l'ai, mais c'est possible par des moyens que la morale réprouve. Donc il n'est pas en DVD, voilà ce que je peux dire, il n'est pas en DVD, mais ce qui est intéressant, c'est que entre le début du muet et 24, il y a dû avoir au moins 4 ou 5 Messalines, dont en 1917 une Messaline déjà de Guazzoni. Et cette Messaline, celle-là, celle de 24, nous intéresse parce que ça montre, comment dire, une des règles du cinéma muet, c'est qu'on filme et on refilme toujours le même film. Par exemple, l'année 17, il y a 3 Messalines. Donc, ça ne gêne personne. Ça veut dire qu'on fait des remakes sans arrêt. Si le film a du succès, on refait le même.
Oui.
Et s'il n'en a pas, on essaye d'avoir du succès. Alors, c'est intéressant, pourquoi ? C'est parce qu'il y a là la première course de chars du cinéma muet. Belle course de chars.
Et du cinéma tout court, du coup.
Et du cinéma tout court. Non, on ne peut pas dire du cinéma tout court. Si, du cinéma tout court, sinon que le Ben-Hur de 1908 sur la plage de Manhattan avait déjà une course de chars avec les voitures de pompiers et de la toile peinte. Mais enfin, bon, ça a duré quelques minutes. Je voudrais quand même signaler que la première course de chars dans la littérature se trouve dans le roman d'Alexandre Dumas, Méconnu, acté 1839. Donc, on a tout un ensemble de choses, et en ce qui concerne Guazzoni, c'est pratiquement la fin de sa production. Il est des réalisateurs de talent, hein, bien sûr, de génie même, qui ne survivront pas à la fin du muet. Voilà donc cette Messaline.
Et alors, qu'est-ce que ça raconte de Messaline ?
Oh c'est toujours l'histoire. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'histoire de Messaline,
donc l'impératrice,
l'épouse
de Claude. L'impératrice,
alors quoi ? Eh bien voilà, je peux vous le dire, hein, Messaline, donc, elle se prostitue.
Enfin, ça, c'est la légende qu'on a rapportée.
La légende, un jour, elle est sauvée de brigands par un esclave qui s'appelle Ennion. Donc, elle devient amoureuse d'Ennion, mais Ennion aime une autre esclave qui s'appelle Églé. Enfin bref, on a, si vous voulez, on a une prêtresse d'Isis qui fait empoisonner les chevaux. Peu importe, c'est un pataquès extraordinaire. Et la fin, évidemment, elle complote avec Caius Silius contre l'empereur Claude, ce qu'il faut historiquement, bien sûr, mais elle est démasquée.
Mais qu'on a eu du mal à rétablir, histoire qu'on a eu du mal à rétablir tellement on a noirci cette pauvre Messaline.
Ce qui me paraît intéressant là-dedans, c'est que intervient une prêtresse d'Isis dont on se demande pourquoi elle est là, et j'imagine que tout ça, ce sont les suites des derniers jours de Pompéi, dont un des rôles principaux, c'est Arbacès, le prêtre d'Isis, si vous voulez. Voilà. Mais quand même, à l'époque, sous l'influence de Caligula d'ailleurs, et il y a un culte d'Isis à Rome. Donc on ne peut pas dire que ce soit faux historiquement.
Alors, continuons notre parcours historique romain avec un énième Covadis, qui est un Covadis italien, sur un scénario quand même établi par un grand de la littérature.
Oui, alors ça, c'est un film un peu compliqué. Alors, il ne faut pas confondre Gabriele D'Annunzio et Gabriellino D'Annunzio, qui est son neveu.
D'accord.
Bon. Alors, je vais vous dire en quoi c'est intéressant. On a ce que j'appelle les évangiles sulpiciens, c'est-à-dire Ben-Hur, Les derniers jours de Pompéi, Ben-Hur et Covadis. Ces trois grands films vont sonner le glas du cinéma muet. Covadis en 24, Ben-Hur en 25-26, Les derniers jours de Pompéi en 25-26, ce sera trois échecs. Ça veut dire que finalement, le cinéma muet sur l'Antiquité se termine par trois échecs financiers et il faudra attendre longtemps pour qu'on recommence à tourner des péplums. Ça, c'est intéressant. Alors, le Covadis, bien sûr, c'est tiré du roman de Sienkiewicz, dont je rappelle qu'il a eu le prix Nobel de littérature en 1905.
Et oui, on a tendance à l'oublier.
Néron est joué par un des grands acteurs du cinéma muet qui s'appelle Émile Jannings. Ça, c'est important. Alors, c'est un film italien de Gabriellino D'Annunzio et d'un Allemand qui s'appelle George Jacobi.
Donc, c'est le neveu, là, qui est le scénariste et réalisateur.
En principe, mais c'est un peu flou. On va dire, c'est le neveu. Donc, c'est intéressant parce que c'est un film italien. Il dure 90 minutes. Il sortira en Allemagne, en Autriche, en 24, aux États-Unis en 25, et je ne suis même pas certain qu'il soit sorti en France. Peut-être. Mais je n'en suis pas certain. Donc, c'est une histoire tout à fait classique.
Donc, celui-ci aussi, nous irons le non-voir.
Il n'est pas en DVD, c'est tout ce que je peux dire. Il n'est pas en DVD. Alors, on va trouver aussi, parmi les acteurs principaux, dans le rôle de l'héroïne, la fameuse Rina De Liguro, qu'on a déjà vue tout à l'heure. Donc, toutes ces grandes vedettes, en fait...
Qui sont en fin de carrière, finalement.
Oui, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils sont tous en fin de carrière. On ne va plus les voir. Et s'il y a quand même un personnage intéressant, tiens, j'ai oublié d'en parler, c'est le personnage d'Ursus. Alors, vous savez que le personnage d'Ursus, c'est celui qui a donné naissance au personnage de Massiste. Et il est joué par une espèce de colosse qui s'appelle Bruto. Bruto, c'est Castellani. Et cet Ursus-là reviendra, c'est Massiste, si vous voulez, il va donner naissance à Massiste, mais il va revenir dans le péplum italien, où on aura des Massistes, mais on aura aussi quelques Ursus, qui signifie l'ours, bien compris. Donc, les suites de ce Covadis, il va falloir attendre 25 ans pour qu'on arrive en 1951, 26 ans. 27 ans pour trouver le grand Covadis accessible en DVD maintenant, heureusement, mais c'est quand même les derniers feux du muet. Voilà pourquoi je pense qu'il faut en parler, parce qu'il est intéressant. Il faut simplement dire que ça existe.
Il appartient à l'histoire du cinéma.
Il appartient à l'histoire du cinéma.
Alors, il nous reste quelques minutes pour parler d'un film que je n'aurais pas classé dans les péplums. Vous allez nous expliquer pourquoi on doit le faire. Alors, c'est Les Nibelungen.
Les Nibelungen, c'est un film en deux parties de Fritz Lang, qui est sorti en 24. Fritz Lang qui est toujours en Allemagne, qui partira ensuite pour échapper au nazisme et qui tournera aux États-Unis. Pourquoi ? Je vais vous dire ça, pourquoi ? Parce que les Nebenwagen, contrairement à ce qu'on peut penser, se passe dans la période de la fin de l'Antiquité. Pourquoi ça se passe sous la période ? Eh bien, ça se passe chez les Burgondes.
Donc on est au 5e siècle, quelque chose comme ça ?
Plus que ça, on est à la fin du... presque au 7e siècle. On est donc...
Donc là, on est borderline quand même, hein. C'est limite pour l'Antiquité.
Enfin, c'est quand même l'Antiquité, mais c'est intéressant, pourquoi ? Parce que lui, on peut le trouver. Ce film en DVD.
Enfin.
Oui, il dure 288 minutes. Fritz Lang. Et alors, le scénario, c'est la réalisation Fritz Lang. Le scénario, c'est Fritz Lang. Et avec son épouse Thea von Arbour, qui va rester et qui va devenir nazi, si vous voulez. Et donc, qui va se séparer. Pour... Voilà. Voilà les Nibelungen. Alors, c'est bon, c'est Siegfried, hein. Attention. Alors Siegfried, donc c'est Siegfried, son épée magique, hein, c'est ça le scénario. Donc Siegfried, après on a eu l'opéra de Wagner. Hein. Siegfried veut se rendre à Worms, capitale des Burgondes, pour conquérir la belle Kriemhild, qui est la sœur du roi Gunther. En traversant une forêt, il triomphe du dragon. Et c'est intéressant parce qu'il va se tremper dans le sang du dragon qu'il rend invulnérable,
ça nous rappelle des choses, quand même.
Sauf sur un endroit de son épaule où s'est posée une feuille de tilleul. Donc, à ce moment-là, oui, c'est
le talon d'Achille à l'envers.
Et effectivement, donc, il arrive...
Ça mélange un peu l'histoire des centaures.
Oui, il arrive au Nibelungen. Il va voler le trésor du roi des nains, Alberic, ainsi que un homme magique, voilà. Donc, magique qui lui permet de prendre n'importe quoi.
On est en plein merveilleux et
on est en
même
plein
temps.
Merveilleux et voilà. Voilà donc l'histoire des Nibelungen. Je crois qu'il faut le voir. C'est vraiment un film.
Merci beaucoup, Claude Aziza. À la prochaine fois.
À la prochaine fois et merci à vous.